Xavier Besson.
Afrique Matin, à suivre notre deuxième reportage sur la recherche génétique, un domaine dans lequel les Africains sont en quelque sorte tenus à l'écart. Et cela, vous l'entendrez, a des conséquences en termes de thérapeutique. Nous serons ensuite au Gabon. François Mazé s'est rendu dans l'est du pays dans une exploitation de manganèse, ce minerai lié à l'acier. Et puis notre invité, le chef de la mission du Fonds monétaire international au Sénégal, le FMI, qui confirme que les anciennes autorités de Dakar ont bien caché une partie de la dette du pays. Mais tout de suite, c'est l'heure des sports. Et les sports avec Antoine Grenier. Bonjour Antoine.
Bonjour Xavier.
Du football ce matin, la sixième journée des éliminatoires en vue de la Coupe du Monde 2026. Et les champions d'Afrique remontent à la première place du groupe F.
Difficile victoire, mais mission accomplie. Les éléphants de Côte d'Ivoire ont difficilement battu la Gambie au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Score final 1-0 sur un but de Sébastien Haller et grâce surtout à la grande performance du gardien ivoirien Yaya Fofana. Le jeu peine à convaincre, mais la victoire est là et c'est ce qui importe au capitaine des éléphants, Franck Kessier.
C'est un championnat et je crois que le plus important, c'est d'emmagasiner les points. Et on joue une qualif, il y a une qualif au bout, il y a un mondial. Deux éditions que la Côte d'Ivoire ne participe pas. Donc pour nous, c'est très important de participer. Donc on a fait le maximum. Le maximum, c'est de sur cette trêve, c'était de prendre 6 points. Et nous sommes très heureux et très satisfaits d'avoir pris les 6 points. On est champion en titre, donc tous les matchs sont difficiles. T'as l'adversaire qui lâche rien parce qu'il veut faire la surprise, ce qui est logique. Heureusement, on arrive à marquer en premier. On sait aussi jouer dans deux phases différentes. On s'est fait le dos rond et on s'est attaqué. Donc, ça nous sourit jusqu'à maintenant et on espère qu'on continuera comme ça.
Franck Kessier avec Yoann Gourlet. Avec ce succès, les Ivoiriens reprennent un point d'avance sur le Gabon.
Une sixième journée marquée aussi par la victoire du Ghana, signé Jordan Ayew.
Certains voient double, lui, il voit triple. Les Black Stars enchaînent un quatrième succès consécutif en dominant Madagascar 3-0, doublé de Thomas Partey et surtout trois passes décisives du cadet des frères Ayew. La quatrième passe décisive, d'ailleurs, en deux matchs pour l'attaquant de Leicester. Succès qui permet aux Ghanéens de faire le break avec désormais 5 points d'avance sur les Baréas dans le groupe I. Le Ghana qui profite également du nul 0-0 du Mali en Centrafrique. Bonne opération au passage pour la Tunisie dans le groupe H avec un succès 2-0 sur le Malawi et désormais 4 points d'avance sur la Namibie.
Une sixième journée Antoine qui se poursuit aujourd'hui avec 15 matchs au total.
Et ça démarre à 16h temps universel avec notamment le Bénin qui affronte l'Afrique du Sud à Abidjan. Les Guépards deuxième du groupe C à deux longueurs des Bafana mais qui compte bien creuser l'écart sur le Rwanda qui reçoit le Lesotho et le Nigeria qui accueille le Zimbabwe. Les Béninois qui ont buté de partout sur les Warriors la semaine dernière, la preuve qu'ils doivent encore passer un cap, estime leur capitaine Steve Mounier.
Il y a des beaux résultats, il y a une qualification à la Coupe d'Afrique dans la difficulté, donc faut pas oublier, on n'est pas une équipe qui est complètement mature comme le coach a pu le dire. On n'est pas encore arrivé à cette maturité optimale parce que voilà, on l'a vu au Zimbabwe par exemple, on menait 2-0, on se fait rattraper. Mais voilà, va falloir qu'on reste concentré, qu'on continue avec nos valeurs. On loupe des meilleurs résultats. On a des bons résultats, mais on pourra en avoir encore des meilleurs. Et il faut arriver à passer ce cap de maturité qui ferait que on serait encore meilleur.
Et parmi les rencontres de ce mardi, duel qui s'annonce tendu entre le Cameroun, deuxième du groupe D, et la Libye, troisième un point derrière. La RDC, deuxième de la poule B, se déplace en Mauritanie pendant que le Sénégal, lui, recevra le Togo.
Merci Antoine Grenier, c'était le journal des sports. Et l'essentiel de l'actualité internationale de ce mardi 25 mars. Après 12 heures de pourparlers à huis clos en Arabie Saoudite, la Russie et les États-Unis ont achevé hier leur première discussion. On n'en connaît pas encore la teneur. La délégation ukrainienne prévoit de nouvelles discussions avec l'équipe américaine. Une fois connues, dit-elle, les résultats de la réunion États-Unis-Russie. Des discussions qui à présent portent sur un possible cessez-le-feu en mer Noire afin de permettre un retour à l'accord céréalier qui avait permis à l'Ukraine d'exporter ses céréales, notamment en Afrique, en 2022 et 2023. En Turquie, l'opposition a organisé de nouveaux rassemblements hier soir. Mobilisation étudiante qui continue de grandir pour protester contre l'incarcération du maire d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, qui est un opposant au président Recep Tayyip Erdogan. Des manifestations ont eu lieu dans au moins 55 des 81 provinces provinces du pays, d'après un des comptes de l'agence France Presse. Et puis, cette affaire incroyable aux États-Unis, le rédacteur en chef du magazine The Atlantic a révélé hier avoir été ajouté à un groupe de discussion sur la messagerie Signal, groupe créé par de hauts responsables américains. Il a reçu un plan d'attaque des raids mené le 15 mars par les forces américaines contre les rebelles houthis au Yémen. C'est l'une des fuites de renseignements militaires les plus stupéfiantes que j'ai lues depuis très très longtemps, a dénoncé le chef de la minorité démocrate au Sénat américain. Il appelle à une enquête complète. Et on poursuit donc ce matin notre série consacrée à l'étude du génome des Africains et aux recherches qui lui sont consacrées en ce moment. Étant rappelé que si l'on connaît désormais tout le génome humain, seul 2% du matériel génétique utilisé pour les études vient de personnes africaines. Et comme dans le cas de l'intelligence artificielle par exemple, ce domaine de la génétique est aussi victime d'un biais dans la construction de son modèle de référence avec très peu de données africaines. Et cela peut avoir des conséquences pour le traitement des populations locale et pour la recherche mondiale, nous explique Claire Bargelès.
Faute d'infrastructures, de ressources ou de personnel, beaucoup de maladies génétiques restent non détectées sur le continent. En RDC, le chercheur de l'université de Kinshasa, Aimé Lumaka, en est régulièrement témoin avec son équipe.
Nous avons, au début de notre carrière, rencontré une famille qui a perdu environ 14 garçons. La peau devenait très noire et il mourait. Nous avons pensé à une maladie génétique et nous avons pu la confirmer. Ce qui était choquant, c'est que c'était une maladie que l'on pouvait traiter facilement avec une supplémentation en cortisol. C'est dans ce genre de situation que l'on voit la force de la génomique. Ça peut permettre d'éviter des décès inutiles, des décès évitables.
Le manque de recherche sur les variations des génomes en Afrique complique aussi les diagnostics, car les bases de données proposent comme référence des séquençages liés à des populations d'origine européenne ou américaine. Chegun Fatoumo travaille sur la question de la diversité génétique pour l'Université Queen Mary de Londres et le Conseil pour la recherche médicale d'Ouganda.
La médecine de précision est très importante. Un traitement qui fonctionne bien sur des personnes qui ont une ascendance spécifique peut ne pas aussi bien marcher pour d'autres. C'est pour cela que l'on doit étudier les génomes de tout le monde.
L'absence de données freine de plus le développement de traitements pour des maladies génétiques qui touchent particulièrement le continent, comme la drépanocytose. Sans compter que la recherche en Afrique et l'identification de mutations peuvent avoir un intérêt pour le reste du monde. La chercheuse de l'université du Witwatersrand, Michelle Ramsey, prend l'exemple d'un médicament anticholestérol conçu grâce à des études génétiques.
Cette découverte a été réalisée grâce à l'observation de mutations génétiques qui sont davantage répandues chez des populations d'origine africaine. Et on savait que ces populations avaient un taux de cholestérol plus bas que la normale. Il y a encore beaucoup de choses que l'on ignore sur le plan de la biologie et la génétique peut nous apporter des indices. S'il y a des variants en Afrique qui ne sont pas sortis du continent et qui ont pu être sélectionnés à cause de facteurs environnementaux, ces variants vont être associés à certaines spécificités. Et si on arrive à comprendre ce lien, cela peut créer des opportunités en termes d'intervention, peu importe qui dans le monde.
Mais si des découvertes sont faites à partir de données africaines, les chercheurs sont unanimes. Il faut mettre en place des protocoles afin que les populations du continent puissent aussi bénéficier des résultats et des traitements. Claire Bargelès, de retour de Durban, RFI.
Et demain, à la même heure, troisième et dernier épisode de cette série consacrée à la recherche génétique, on verra comment il est possible ou non de construire une meilleure connaissance du génome des Africains. Après le train, hier, Afrique Économie s'intéresse ce matin aux minerais gabonais. Le lien, justement, c'est ce train qui transporte les minerais, en l'occurrence le manganèse, de l'est du pays où il est extrait vers la côte où il sera exporté. À Moanda, non loin de Franceville, c'est l'entreprise Comilog qui extrait le manganèse utilisé pour les alliages d'acier. Et cette entreprise tente de s'adapter en développant des politiques sociales et environnementales, en particulier pour la sauvegarde des ressources en eau. Reportage de François Mazé.
L'équipe de l'après-midi entame son cycle et les pelleteuses se mettent en action. Nous surplombons la mine à ciel ouvert d'Oguma avec Brice Mabika, chef de département exploitation minière de la Comilog. Ici, le manganèse est facile d'accès à environ 6 mètres sous la surface du sol.
On va passer d'abord la couche de pisolite, on va tomber sur le toit du minerai. Après le toit du minerai, on va aller sur la roche-mère ou sur les argiles. Ce qui nous intéresse ici, c'est la couche du milieu. Pour arriver à la couche du milieu, il faut d'abord décaisser toute la partie supérieure. Oui. Dès qu'on a fini de faire ça, on va passer à la phase phase d'exploitation, récupérer la tranche minéralisée chargée dans les camions et ramener ça vers le client qui est la laverie.
À la laverie, le minerai sera nettoyé et séparé en trois types. Kelin Ganjoka est responsable de ce processus.
Donc, lorsque le minerai vient de la carrière, une fois qu'il est extrait en carrière, il passe par la partie concassage. Donc on a un extracteur, un tablier métallique qui met sur le convoyeur, première étape de débourbage. Et après, on fait la classification.
Le manganèse propre part pour la gare via des tapis roulants longs de plus de 3 km. L'eau boueuse du lavage vers un décanteur mis en service en juin 2023 et qui permet un recyclage efficace, selon Kelin Ganjoka.
On boucle l'année 2024 avec une cible initialement prévue à 85%, on finit à 92% de taux de recyclage ici. Donc on a fait nettement mieux. Et là, on vise les 95% afin de garantir toujours l'autonomie de l'usine en eau et prendre de moins en moins d'eau en milieu naturel.
Le reste rempli des bassins d'évaporation sur lesquels on plantera des arbres. Originaire de Mouanda, le député de la transition Jean-Valentin Leyama est souvent en conflit avec la Comilog, mais il reconnaît les progrès effectués.
À la suite d'un certain nombre de combats qui ont été menés au milieu des années 2000, Comilog a fait beaucoup d'efforts. Les déchets du minerai ne sont plus rejetés dans la nature. Des protocoles ont été mis en place, mais compte tenu de la nature du minerai, il y a toujours une pollution résiduelle sur laquelle il faudra certainement mettre en place un observatoire qui examine l'impact sur les populations de façon périodique.
Jean-Valentin Leyama pointe aussi les limites à la politique sociale de l'entreprise. Autre difficulté pour la Comilog, l'acier et le manganèse dépendent de l'état de la croissance mondiale. Fin 2024, la production a été suspendue pendant 3 semaines en raison d'un coup de mou sur le marché chinois. François Mazet de retour de Mouanda, RFI.
À Mouanda, au Gabon, il est 5h53. 4h53 à Dakar, direction le Sénégal ce matin avec notre invité, le chef de la délégation du Fonds monétaire international dans le pays. Le FMI qui confirme ce que la Cour des comptes sénégalaise avait révélé au début de l'année. Oui, les anciennes autorités du temps du président Macky Sall entre 2019 et 2024 ont bien caché une partie de la dette du pays. Edouard Djemayel, interrogé par Léa Lisa Vesterhoff.
Édouard Gemayel, bonjour.
Bonjour.
Vous avez conduit la délégation du FMI à Dakar cette semaine. Quel est l'objectif de cette visite ?
Suite à la publication du rapport de la Cour des comptes à la mi-février, nous sommes venus à Dakar pour discuter avec les autorités du contenu du rapport, notamment ce qui s'est passé en termes de dette pendant l'ancienne administration, comment cette dette s'est accumulée sans être divulguée et quelles sont les mesures et les réformes que les autorités souhaitent prendre afin d'éviter qu'une situation similaire ne se reproduise.
Selon le document publié par la Cour le 12 février dernier, les comptes initialement arrêtés en décembre 2023 faisaient état d'une dette publique sénégalaise qui était à plus de 70% du PIB, finalement sous-estimée. En êtes-vous arrivé à la même conclusion que les autorités actuelles, à savoir que l'administration précédente a délibérément menti aux partenaires financiers du pays au sujet de l'état économique du pays?
Comme le rapport de la Cour des comptes le dit très clairement, il y a eu une décision qui était très consciente de sous-estimer ce stock de la DEC pendant les années précédentes. Donc on est d'accord avec la conclusion du rapport de la Cour des comptes.
Donc on peut parler de mensonge?
Il y a une sous-estimation. Donc on a eu une partie de la dette qui a été cachée.
Des sources parlent de 7 milliards de dollars qui auraient été détournés. Vous confirmez?
Bon, 25% du PIB, c'est à peu près 6-7 milliards de dollars. Je ne dirais pas détourné. C'est un endettement qui n'a pas été dévoilé. Et donc le stock de la dette a été sous-estimé par à peu près ce montant, 6-7 milliards de dollars.
Eddie Gemayel, merci.
Le chef de la délégation du FMI au Sénégal, notre invité ce matin. Entretien complet à écouter dans 3 quarts d'heure et sur RFI.fr. Dans un peu plus de 3 minutes, c'est le journal et c'est Maman qui va nous emmener jusque-là. Maman, vous nous dites ce matin que le Gondouané lambda a parfois du mal à se retrouver dans les discours et les injections qui viennent d'en haut.
Oui, le pauvre Gondouané lambda, citoyen souvent dupé mais jamais dupe, a parfois l'impression de vivre dans un film en langue originale dont il n'a pas les sous-titres. Il pense comprendre quelque chose, piochant un mot par-ci par-là, pour finalement se rendre compte un peu plus loin qu'il a eu tout faux. C'est cette permanente douche écossaise que subit notre cher ami à chaque fois qu'il écoute et regarde évoluer les hommes politiques, les dirigeants économiques, les éditorialistes et tous ceux qui ont micro ouvert partout et tout le temps, que ce soit en très très démocratique république, en république de Mbengue, capitale Paris et et dans le reste du monde. Quand tu lui demandes de te dire exactement où se situe son triangle des Bermudes, c'est-à-dire à quel moment son GPS a perdu le réseau, le Gondwané lambda n'arrive pas à te dire de manière claire et limpide. Il te dit juste « Écoute, je te dirai juste que j'en ai marre du deux poids deux mesures, du double standard et de toutes ces choses à géométrie variable. » Bon, je sais que ça t'embouche un coin, hein, cher auditeur, nouveau venu dans ces eaux inconnues. Tu t'attendais pas à ça, hein? Attends, tu croyais que quoi? Même s'il n'a pas fréquenté les bancs de l'école comme toi, mais le Gondwané lambda a un laser entre les oreilles. Je t'avais dit dès le début de cette chronique que le Gondwané lambda était souvent dupé, mais jamais dupe. Il te voit de loin, mais ne dit rien. Comme disent les mbenguistes, il n'en pense pas moins, hein? Et donc, ce qui fatigue le Gondwané lambda, c'est cette constance en très très démocratique république de ne jamais savoir sur quel pied il doit danser. Quand on lui dit A, puis quand il passe à la caisse, après avoir fait la queue très longtemps, ben on lui dit que c'est plutôt B et que même si c'est lui, c'est devenu B plus C plus D plus E jusqu'à Z. Il ne comprend plus rien. Les mêmes qui lui disent qu'il faut consommer gondwané, eh ben, quand tu les vois manger chez eux, plus ça vient d'ailleurs, plus c'est chic. Tout ce qui est dans leur frigo et qui finit dans leur ventre est venu là par bateau ou par avion. Les mêmes qui te disent que Duralex, c'est de l'ex, la loi est dure mais c'est la loi, eh ben c'est ces mêmes gars-là qui ne veulent pas que leur fils junior passe ne serait-ce qu'une seconde en garde à vue parce qu'il a giflé un policier dans l'exercice de ses fonctions. Les mêmes qui te serinent à longueur de discours qu'il faut développer le tourisme au Gondwana passent toutes leurs vacances à deux pas de la Tour Eiffel sur les bords du lac Léman ou à faire du shopping sur la Fifth Avenue à New York. Les mêmes qui te disent qu'il faut encourager et soutenir les médias gondwanais, eh ben dès qu'ils veulent s'adresser à leur peuple, ils se précipitent dans les studios de... Non, je peux pas dire ça, hein. À demain.
À demain. Merci, Maman. Merci aussi à Laurent Hérault qui était à la réalisation ce matin de cette édition d'Afrique Matin. Et c'est le moment où l'on passe le relais à RFI Matin. Bonjour, André Admela.
Bonjour, Xavier Besson. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle matinée ensemble. 3 heures d'infos jusqu'à 9 heures et au programme des chroniques, des invités, des reportages ce matin. On va encore beaucoup parler de la Turquie. On va aussi évoquer la situation au Proche-Orient avec notre invité ce matin, le journaliste palestinien Rami Abou Jamous. Il sera en ligne avec nous de Gaza. On parle aussi ce matin du Sénégal, du Burkina Faso, du foot. Et dans une minute, le journal.
8 milliards de voisins.
Emmanuel Bastide attend vos témoignages sur les thèmes de cette semaine. Aujourd'hui.
À qui appartient le wax au juste? Ce tissu coloré et éternellement réinventé.
Demain.
Comment enseigner aux élèves la recherche de l'info juste à l'ère du numérique?
Contactez-nous sur notre numéro WhatsApp 337 64 45 51 41.
8 milliards de voisins.
Du lundi au vendredi à 10h10 TU sur RFI.
Tout à l'heure sur RFI. De vive voix, Pascal Paradou.
Comment dire son admiration à un auteur ou à une autrice en lui consacrant un livre? Pas forcément un essai ni même un roman, mais une forme de déclaration d'amour. C'est ce qu'ont fait Samy Tchak et Annie Ferré avec Profané Ananda en l'honneur de la mauricienne Ananda Devi.
Écoutez De vive voix avec Pascal Paradou du lundi au jeudi à 13h30.